Là, est-ce que je sortirai, est-ce que je sortirai pas? Tor,
soir.
Attends,
on démarre dans une seconde.
On se mute ici. Voilà. Ah non, là, il faut pas se muter. C'est toi qui dois te muter. C'est bon?
Non, non. Je pense qu'on...
C'est bon?
Attends, je vais juste demander. Vous nous entendez?
Ouais, ouais, bah...
Moi, je pense que c'est celui-là ou c'est celui-là?
Il y en a un des deux qui doit être muté. C'est pas lequel.
C'est bon.
Ça, toi, t'es muté ou c'est lui? Toi, t'es normal, toi.
Attends.
C'est bon? Tov,
on est bon.
On est bon. RF Tov. RF Tov, les Koulam. Alors, en introduction, je ne sais pas quoi vous dire. Parce qu'on retrouve une assistance de nos premières années à Givat Shmuel. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on doit changer nos sujets, ouais. C'est ça.
Vous pouvez tous vous mettre en mute. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre en mute? Merci.
Vous pouvez tous
vous
mettre en mute.
Mute les doigts, sinon. Tov. Alors,
Les lunettes. Pas comment on fait pour avoir que lui, en fait.
Mais les en mute directement.
Tu peux les muter, toi, je crois.
Ce que je fais.
Voilà. Alors, très heureux de vous retrouver en même temps dans une situation. Bah oui, très heureux de vous retrouver parce que, oui, bah, je sais pas, tu nous mutes ou tu nous mutes pas?
Je t'ai muté?
Non, pas moi. Il faut muter les autres. Meira, si vous pouvez vous muter, madame.
Mais toi, fais mute. Moi, je vais le muter lui.
Mais lui, je démute après, c'est pas compliqué.
Ouais.
Je démute tout seul.
Mais moi, je passe sur tout. Je
te démute après. Je te démute all.
Attends. Mute tout le monde.
Attends. Et où est-ce que j'ai un mute all? J'ai pas de mute all.
Il n'a pas. C'est un problème. Meira, mutez-vous.
Je peux pas faire un mute all.
Je sais pas quoi vous dire. Les inconvénients
du direct. Pas, moi, les trucs, les...
Attends, peut-être d'aller participer.
Je vais demander à ce que les gens se mettent en mute.
Bien sûr, participants.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez tous vous mettre en mute, en mode silence? Merci beaucoup.
Sinon, on me coupe le zoom.
C'est ça, hein.
On est tous là, de toute façon. Non, il y en a beaucoup. Il y en a...
Pourquoi pas baisser le son de l'ordinateur?
Non, c'est chez eux, en fait.
Oui, mais
après, ils n'entendront pas non plus.
Non,
c'est que le son
qui est mis de leur part.
Mais oui, mais Meira, justement, on vous entend beaucoup. Compliqué.
Bon, bah, ça, on éteint le son et puis c'est tout. C'est pas...
Non, Manu,
top.
Tu peux pas éteindre le son de leur
part. Si, je peux, vas-y. Ils entendent.
Faut vous muter.
C'est bon, vas-y, j'ai éteint, vas-y.
Non,
top.
Bon,
ouais, ok, top, alors on peut y aller. Donc, comme je le disais, je suis très heureux de vous retrouver, mais c'est très paradoxal de dire ça, et je me rappelle vous l'avoir dit exactement l'année dernière, que c'est très compliqué, parce que nos cours de Givat Shmuel, à chaque fois, on a une pause pour Pessah, et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour Yom HaShoah. Et donc, c'est très paradoxal.
Ils t'entendent pas.
Ils ne m'entendent pas. Non, je suis muté. Parce que il faut, toi, mute, toi. Voilà. C'est bon. Ça va le faire. Et donc, voilà, donc c'est toujours un petit peu paradoxal parce que d'un côté, content de vous retrouver, mais on aimerait se retrouver pour d'autres occasions. On va essayer de parler ensemble de Moed Hayom, Yom HaShoah. Et je me suis évidemment posé la question de qu'est-ce qu'on avait déjà dit, qu'est-ce qu'on n'avait pas déjà dit, qu'est-ce qu'on n'allait pas redire. La première fois qu'on a parlé de Yom HaShoah tous ensemble, on a fait un vrai cours de Torah sur la Shoah. Ensuite, on a essayé de parler de ce qu'était la direction rabbinique dans la Shoah. Fais-le d'un coup, quoi. Voilà. T'as vu ? Et finalement, on avait parlé également de, à mon sens, quels devaient être les enseignements de la Shoah aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose qui est extrêmement, j'allais dire, pas intéressant, puisque je pense que ce que je vais dire, tout le monde le sait, mais j'aimerais étayer ce que tout le monde sait.
Vous ne nous entendez pas ?
C'est bon ?
Si, ça marche, je pense.
Pas de son, pas d'image pour l'instant.
Bon, attends, on va voir. Ok.
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On m'entend là ? On m'entend ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui sont qui n'arrivent pas à entendre, pas à se connecter, le cours il sera sur le site et il sera sur YouTube après.
Ah, c'est bon.
Quoi qu'il en soit, donc je vais dire quelque chose que tout le monde sait. On va rien faire de très nouveau. On va essayer en 10 points de voir quelles ont été les évolutions de la Shoah. On va faire un cours qui va être pseudo cours d'histoire et qui va être étayé par le regard de la Torah en temps réel. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a... Quoi ? En une minute ?
Voilà.
À mon sens, il y a 10 points qui vont être des tournants dans l'univers de la Shoah. Et à chaque fois, il faut bien comprendre qu'il y a des rabbanim à cette époque-là, à ces endroits-là, même dans d'autres endroits, mais qui voient les événements et qui vont accompagner l'histoire avec un grand H, avec des décisions de la petite histoire. Donc venons, on va essayer de comprendre et d'avancer pas à pas pour essayer d'entrevoir le comment. Évidemment, on l'a déjà dit ici et je l'ai déjà dit dans plein d'endroits, et c'est ce que je dis toujours quand je guide en Pologne, si vous voulez comprendre le pourquoi de la Shoah, c'est pas à moi qu'il faut demander, il faut demander au prophète dès que vous le verrez, demander à Dieu directement. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qu'on peut essayer d'entrevoir, c'est comment. Comment ça s'est passé et surtout, comment les rabbins de ces différentes époques voient les événements. Est-ce qu'ils sont capables de Ezehu, Chacham, Aroé, Tanolad ou pas ? Et même si je ne parle pas de projection, parce que des fois c'est facile de parler de projection pour nous, mais soyons honnêtes, est-ce qu'on aurait pu réfléchir clairement, si on avait été dans les événements, au-delà de ça, comment les rabbins voient-ils les événements au niveau halakhique ? Je vais spoiler ce que je vais dire dans quelques minutes, mais pour vous montrer quelle est la question. Il y a une question qui est posée dans le ghetto de Kovno. C'est une question qui reviendra d'ailleurs dans le ghetto de Varsovie et dans la majorité des ghettos. Et à cette question-là, les rabbins ne donneront pas la même réponse. C'est la même question. Mais on ne donnera pas la même réponse en 1941 et en 1943. Et c'est une réponse, une question toute simple. Je la pose, mais je donnerai la réponse tout à l'heure quand on avancera. Est-ce que je dois mettre une mezouza dans ma nouvelle maison du ghetto ? Ça peut nous paraître trivial comme question, surtout qu'on se dit, mais attends, il y a des choses vachement plus importantes. Justement, c'est ça qui va nous aider à comprendre comment ça se passe. Une dernière chose avant qu'on commence, évidemment, je vais aborder 10 points qui sont, je pense, on est ici avec un public d'érudits, donc je pense que vous savez ce que je vais dire, mais n'oubliez pas que eux ne savent pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous, on connaît la Shoah a posteriori. On connaît l'univers de ce qui s'est passé, on connaît toutes les étapes, et donc on voit le film à l'envers, et on se dit, mais attends, si moi j'avais été à leur place, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas fait ça et ça ? Eux ne savent pas comment les événements vont avancer. Et c'est justement avec ce postulat de départ qu'on va commencer. Non seulement ils ne savent pas ce qu'il va y avoir, mais j'ai envie de prendre comme thèse de base qu'à chaque moment que je vais évoquer, il y a un tournant où à aucun moment on peut imaginer qu'il va y avoir ce tournant. D'accord ? Alors maintenant, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Et on va commencer tout simplement avec ben, ce qui va être notre point de départ, à savoir le 30 janvier 1933. Évidemment, c'est un point de départ que je choisis, parce que sinon on pourrait remonter l'antisémitisme, il n'est pas né d'hier, quoi. Donc, mais il faut bien choisir à un moment donné. En vrai, c'est pas vraiment le point de départ, puisque le 30 janvier 1933, vous le savez, Hitler monte au pouvoir de manière démocratique. Mais en vérité, il faudrait qu'on revienne avant, avec la naissance du parti nazi. Et comment est-ce qu'il commence à avoir de plus en plus de voix à chaque élection au Parlement allemand ? comment ça se passe en Allemagne pour que le parti nazi grandisse. Qui sont ses soutiens au début? Qui sont ses soutiens à la fin? Qui sont ceux qui vont l'élire? Par exemple, quelle tranche de la population va amener Hitler au pouvoir? C'est le Parti National Socialiste. Donc ce ne sont pas censés être normalement des gens de droite, si on parle en termes français. National Socialiste, bon, tu me diras, il y a National dedans, mais il y a Socialiste. Donc c'est la gauche, à la base, c'est un parti économiquement de gauche, dans nos critères à nous. Donc qui est la population? Est-ce qu'on parle de la classe moyenne? Est-ce qu'on parle des bourgeois? Est-ce qu'on parle de la jeune génération? Est-ce qu'on parle de la plus vieille génération? En vérité, les choses sont très simples. Hitler devient le gourou d'une jeunesse qui avait 10 ans lors du traité de Versailles, en 1919. Imaginez, vous avez 10 ans en 1919. Et bien, en 1933, je vous laisse faire le calcul, vous êtes la jeune génération qui peuple l'Allemagne. Et donc, vous avez grandi avec une réalité qu'on vous a dit que l'Allemagne, c'était un peuple tout pourri et une nation tout pourrie. Et arrive un homme qui nous dit « Mais non, les Allemands, c'est génial !» Et donc, vous imaginez que vous avez toute une génération qui grandit avec un homme qui leur dit « Moi, je vais refaire de vous des gens au top. » Donc, en fait, on aurait pu commencer bien avant le 30 janvier 33, mais il faut bien qu'on commence quelque part de manière structurelle. Et donc, le 30 janvier 33, il passe au pouvoir. Les Juifs, avant le 30 janvier 33, est-ce qu'ils voient la montée du parti nazi? Bien sûr. Est-ce que tout le monde sait que les nazis ne sont pas franchement philosémites? Oui, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? C'est-à-dire, il y a le parti nazi qui est monté au pouvoir. So what? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'est exactement avec ce qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors c'est vrai, ils ne nous aiment pas beaucoup. Il y aura une autre élection après, on renversera si jamais il y a un problème. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Toujours dans cette optique de jamais de la vie, eux ils peuvent se projeter et savoir. Alors jamais de la vie, pas forcément. Parce que je vous rappelle que alors que le 1er février 33, rien n'a changé dans le quotidien des Juifs. Vous êtes bien conscient que entre le 29 janvier et le 1er février 33, rien n'a changé. Certes, Hitler est monté au pouvoir, mais pour le quotidien des Juifs, rien n'a bougé. Et je vais même aller plus loin. En septembre 1933, donc 8 mois plus tard, il n'y a pas encore eu de loi anti-juive. On n'y est pas encore. Et pourtant, il y aura un homme qui habite à Jérusalem, qui lui va être Ezehu Chacham Aroet Anolad. Malheureusement, il est à Jérusalem. Pas malheureusement, pour lui c'est génial. Mais malheureusement, sa voix ne va pas porter jusqu'en Europe. Il y a fort à penser que même s'il avait été en Europe, sa voix n'aurait pas forcément porté. Mais en septembre 1933, à Rosh Hashanah, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook va faire son discours d'avant les sonneries du chauffard, le fameux discours des chauffarot, dans lequel il explique qu'il y a trois sortes de chauffards, de réveil à la Géoula, de réveil à Sion, du retour en Israël. Et il y a le grand chauffard, celui qui dit que je remonte en Israël parce que c'est l'appel divin, parce que c'est la mitzvah de la Torah, c'est génial, j'y vais. Il y a un deuxième chauffard qui est moins bien, qui est le chauffard qu'on appelle Benoni, moyen, qui me fait vouloir revenir en Israël parce que je veux retrouver ma nation et recréer une nation dans un pays comme toutes les autres nations, et c'est la terre de mes ancêtres. C'est un chauffard à Benoni, à Chiloni. Ce n'est pas pour des raisons toraniques, mais pour des raisons nationalistes. Et puis le Rav Kook, en septembre 1933, nous dit « Mais il y a aussi un chauffard Katan, un petit chauffard, pour celui qui n'entendrait ni le grand ni le moyen. » Et ce petit chauffard, et c'est ça le grand chidouche, eh bien, c'est qu'il dit « C'est la persécution. » Ce petit chauffard qui pousse à partir de l'exil, c'est la persécution. Et il dit « Mais il a un nom aujourd'hui. » Et il s'appelle Adolf Hitler. C'est-à-dire qu'il le cite dans son texte, alors qu'on n'est qu'en septembre 1933 et qu'il ne s'est encore rien passé. Évidemment, encore une fois, hein, il ne s'est rien passé. L'antisémitisme, il est présent partout. Mais il ne s'est encore rien passé. Et donc, on commence avec cette réalité de...
Il n'y a pas eu d'autres voix dans le monde. C'est-à-dire en Allemagne, il n'y a pas eu un...
Alors, on va essayer de voir justement quels sont les rabbins en Allemagne qui parlent. Et ils ne parlent pas beaucoup en 1933. Mais, effectivement, tu as raison de souligner, il y a un rabbin qui va parler. Il y a un rabbin qui va parler, il n'est plus en Allemagne. Il est de base allemand, il est en Allemagne, mais il part en 1930 aux États-Unis. Mais il va continuer toujours à avoir un regard sur sa communauté, la communauté de son père, la communauté de son grand-père. Il porte en lui tout le judaïsme allemand, mais c'est des États-Unis qu'il va parler, mais il ne parle pas en 1933, il parle en 1935. Parce que là, on arrive à notre premier carrefour. Comme on a dit, mais qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer ? Iné arrive 1935 avec les fameuses lois Nuremberg. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'Allemand. Hitler a un programme. Dans son programme, il est clairement pas très fan des Juifs, on l'a dit, mais il n'y a évidemment pas encore officiellement d'exécution ou quoi que ce soit. Par contre, il est clair que les Juifs doivent être mis au banc de la société, voire même, si on peut y arriver, ça sera le projet de faire un Judenrein, de faire un pays sans Juifs. Le problème dans tout ça, c'est que bah, c'est qui les Juifs ? Eh oui ! Et donc, quand les Juifs se disent « Bon, bah, il est au pouvoir, mais qu'est-ce qui peut nous arriver ?» Boum, arrivent les lois de Nuremberg en disant « Bah, maintenant, il va falloir bah, définir qui est Juif. » Parce que, comprenez-moi bien, tout ce qui était la propagande antisémite, très très bon ministre de la propagande, pas de problème, Goebbels, il, en termes de marketing, très bien, mais il a un problème, le terrain. Parce que concrètement, il n'y a rien qui ressemble plus à un Allemand qu'un Juif allemand. C'est-à-dire que tous les gros des, le rat, le machin, ça ne marche pas. Il y a à peu près 500 000 Juifs en Allemagne, et pour l'écrasante majorité, ils sont complètement intégrés dans la société allemande. Donc comment on fait ? Ben, la première chose à faire, c'est on va statuer et on va définir qui est Juif. Vous connaissez les lois Nuremberg, évidemment. Au final, il y aura plusieurs versions, mais au final, si tu as un grand-parent juif, ça suffit pour être juif. Alors après, il y a des classifications, tu es juif de premier degré, juif de deuxième degré, c'est pas très important. Un grand-parent juif. Alors pourquoi on va remonter à un grand-parent juif ? D'abord, qu'on sache au niveau historique, pour une raison très simple, grand-parent, c'est-à-dire on remonte deux générations en avant, pour la simple raison qu'il y a deux générations, il y a eu un recensement en Allemagne. Rien à voir avec Hitler, rien à voir avec les nazis, rien à voir avec l'antisémitisme. Un recensement de toute la population, dans laquelle tout le monde devait, entre autres choses, dire de quelle religion ils étaient. Ça peut être catholique, protestant, l'homme jamais. Il y avait aussi donc des juifs qui se sont déclarés en tant que tels. Et donc ça veut dire qu'il y a deux générations, on a les listes de tous ceux qui étaient des juifs, qui s'étaient affiliés à une communauté juive. Donc c'est très facile de pouvoir savoir qui est juif quand on remonte au grand pas. Donc, les lois Nuremberg arrivent. Et à ce moment-là, il y a ce rabbin qui était en Allemagne, qui est parti aux États-Unis, que nous, en France, on connaît bien. Et moi, j'ai une tendresse particulière pour lui parce que c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde de la Torah. Parce que j'ai pas grandi dans un monde religieux, je connaissais pas. Et quand je suis arrivé en Israël à l'Yeshiva, je parlais pas encore hébreu, je lisais pas encore l'hébreu, et je voulais apprendre. Et donc, j'ai demandé au rabbin de la Yeshiva, est-ce qu'il n'y a pas un bouquin en français voilà, pour m'aider à prendre la paracha. Il m'a dit, bah, regarde, prends ça, il y a plein de midrashim, il ramène plein de choses, c'est très sympathique, c'est du français comme ça. Truc. Le livre bleu, La voix de la Torah du rabbin. Ah, t'as vu, je ne suis pas le seul. Hein. Tout le monde le connaît. Et bien, oui, mais le Rav Eliyahu Munk, c'est un Allemand qui part aux États-Unis, mais allemand. Et donc le Rav Munk, eh bien, on va lui poser une question. Quelle va être la question ? Est-ce qu'on a le droit ? Alors, encore une fois, il n'est plus sur place. Mais suite aux lois Nuremberg, la question qui va être posée, et on va retrouver ça dans un texte qui s'appelle Seder Hayahadut, qu'il écrira plus tard à Brooklyn. On lui demande, est-ce qu'on a le droit de cacher son judaïsme ? Est-ce qu'on a le droit de cacher son judaïsme ? Est-ce qu'on a le droit, pas alors, on ne lui demande pas de se convertir, mais de cacher son judaïsme. La question de savoir est-ce que ça aurait marché ou ça n'aurait pas marché parce qu'il y avait les listes, parce qu'il n'y avait pas les listes, rappelez-vous d'une chose, si cette question elle ne marche pas pour l'Allemagne, parce qu'il y a des registres très clairs, elle pourrait marcher pour la France. La France, elle n'a pas des registres clairs de qui est juif et qui n'est pas juif en France. Le fichier juif qui va être mis en place par le gouvernement de Vichy, il ne sera mis en place que parce que les Juifs viennent se déclarer à la police. Si le Juif ne vient pas se déclarer à la police, je ne te parle pas de celui qui s'appelle Cohen. Donc la question qui est posée au Rav Munk, est-ce qu'on a le droit de cacher son judaïsme? Le Rav Munk répond de la manière la plus simple, et ça nous permet de rentrer. Parce que le Rav Kook, qu'on a cité tout à l'heure, c'était pas vraiment une dracha. Mais on va commencer maintenant à rentrer dans les She'elot ou Tshuvot, qui vont nous aider à comprendre l'évolution des époques et petit à petit la descente aux enfers et aussi le retour à la vie. She'elot ou Tshuvot, c'est shootim, ces questions-réponses qui ont été données à tous les rabbins partout, dans toutes les situations. Leurs réponses nous aident à comprendre quelle était la vision à ce moment-là. Et le Rav Munk nous dit, absolument pas, on n'a pas le droit de cacher son judaïsme. Il faut porter fièrement son judaïsme. Est-ce qu'il aurait répondu de la même façon en 1941? Alors évidemment, tout ça, je n'ai pas de réponse. Hein. Je ne fais pas du chronique, je ne peux pas faire une histoire alternative. Mais en 1935, non, on ne cachera pas notre judaïsme. Parce que ça y est, il y a les lois Nuremberg, on a déterminé qui est juif. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de plus? C'est bon, maintenant on sait qui est juif, ils voulaient nous séparer un peu de la population, on comprend l'idée, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? En plus de tout ça, le fait que les nazis nous aient mis au banc de la société, c'est pas intelligent de leur part. Pourquoi c'est pas intelligent de leur part? Parce que ça, le monde entier ne l'acceptera pas. Maintenant que les nazis nous ont officiellement mis à l'écart avec notre lobby juif, eh bien, on va pouvoir expliquer au monde entier que c'est pas bien et le monde entier va forcément prendre position contre Hitler. Et ça nous amène à 1936. Et le monde entier prend effectivement position pour Hitler. Pas au niveau des lois de Nuremberg. Mais je vous rappelle qu'en 1936, il y a les Jeux Olympiques de Berlin. Les Jeux Olympiques de Berlin. On y va ou on n'y va pas? Alfred Nakache. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce, si vous connaissez l'histoire. Il va nager ou il ne va pas nager? Il va représenter la France? Ken Zeshela. Zeshela, c'est une vraie question qui a été posée. Alors pas au grand rabbin de France, c'est pas par Alfred Nakache. Mais c'est une question qui est posée en Pologne. Qui est posée en Pologne par un lutteur, Petrzejewski. Un lutteur juif polonais qui va gagner la médaille d'or. La médaille d'or. Il va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin. Et la question qui avait été posée, c'est est-ce que j'ai le droit d'y aller alors que il y a toutes ces persécutions pour les juifs. On est en Pologne. Lui, il ne vit pas encore la persécution officielle. Il n'y a pas encore eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais il voit ce qui se passe en Allemagne. Les lois de Nuremberg sont connues. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Il n'est pas religieux. Et ce n'est pas lui qui pose la question. Ce n'est pas lui qui pose la question, mais c'est au rabbin de Varsovie qu'on va poser la question. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer un athlète juif représenté là-bas à Berlin? Vous savez que il y a des Allemands aussi, juifs, qui vont participer aux Jeux Olympiques. Par exemple, il y a une dame qui va gagner la médaille d'argent d'escrime, qui habite aux États-Unis mais qui est allemande d'origine, qui a fui l'Allemagne parce que les conditions, on est avant, hein, avant la montée du nazisme au pouvoir, mais avec sa famille, ils sont partis aux États-Unis. Et elle revient concourir pour l'Allemagne. Elle va gagner, elle monte sur le podium et elle saluera le Führer. Et donc la réponse qui est donnée par les rabbins de Varsovie, c'est de dire bien sûr qu'on va aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Kiddush Hashem. Non, toi tu te balades dans les rues de Berlin, aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936, tu vois aucun écriteau antisémite. Parce que Hitler, il les a fait retirer. Pour l'événement. Mais tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Entre parenthèses, il n'y a pas que des histoires juives dans ces Jeux Olympiques. Il y a l'histoire extraordinaire de Jesse Owens, de Otto Schultz, les deux finalistes du saut en longueur. Un Allemand, un Américain. D'ailleurs, les Américains ont enlevé leurs athlètes juifs de l'équipe du 4x100 mètres. Parce que c'est pas la peine de se mettre mal à l'aise avec, avec l'autre, l'organisateur. Les amis, à ce moment-là, on est en 1936, le monde a montré aux Juifs qu'il ne fallait pas trop compter sur eux. Mais enfin bon, ils ne nous ont pas aidés en prise de position publique contre Hitler, mais en vrai, c'est pas grave. Ils ont qu'à nous aider autrement. Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Parce que Hitler, il dit clairement qu'il ne veut pas de ces Juifs. Donc il n'y a pas de problème. On n'a qu'à partir. Et c'est ce qui nous amène à 1938. 1938, il y a la conférence d'Évian. La conférence d'Évian, c'est une conférence toute mignonne dans laquelle Hitler y réunit les dirigeants du monde, les chefs de pays, et il dit voilà, les copains, je veux pas de mes juifs. Qui les prend ? Encore une fois, qu'est-ce qui se serait passé si ? Mais voilà, qui les veut ? Moi, je ne les veux pas. Moi, je veux dégager mes juifs. Qui les prend ? Et les amis, il y a la question qui est posée. On a dit, on part sur des questions-réponses à chaque fois. La question est posée au Rav Nachman Tzvi Avi, mi Brooklyn. Parce que je vous rappelle que la réponse de la conférence d'Évian, c'est quoi ? Personne. Personne n'en veut. C'est-à-dire qu'en 1938, tu peux partir d'Allemagne, mais tu peux aller nulle part. Parce que si tu veux partir, ils te font un visa pour pouvoir rentrer dans les autres pays. Et les autres pays, ils ne te les donnent pas. Et dans certains pays où on te les donne, il faut beaucoup dire à Chamaï. Beaucoup dire à Chamaï. La question est posée au Rav Nachman Tzvi Avi, qui est un des rabbins de Brooklyn. On va dire, regarde, la communauté, elle a de l'argent. Il y a de l'argent. Chez Ella, c'est est-ce qu'il vaut mieux donner cet argent pour payer et donner des laissés-passer à nos frères juifs d'Allemagne, en sachant que si on fait ça, ben les Allemands, ils vont certainement s'en servir pour faire monter les prix et faire des problèmes à encore plus de juifs. En gros, est-ce que j'ai le droit de payer une rançon pour libérer un juif ou pas ? Il y a une mitzvah comme ça, non ? Ça s'appelle Pidyon Shvuim, c'est très important. Donc il faut faire ou pas ?
La réponse, elle est claire.
Elle est claire. Elle est tellement claire que depuis le 15e siècle en Europe, on ne rachète plus les prisonniers. Pourquoi ? Parce que, encore une fois en Allemagne, bon, c'était une autre époque, il y avait un monsieur qui s'appelait le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, il a été fait prisonnier. Et les gens qui l'ont emmené en prison, ils ont demandé une rançon énorme pour lui. Et le Maharam a écrit de sa prison une tchouva dans laquelle il interdisait qu'on le libère. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si vous allez payer pour moi, et la communauté le voulait, ça va inciter... Ben, non, c'est pas ça. C'est qu'après, ils vont capturer d'autres rabbins. Ah, c'est ça que tu voulais dire, Demoïche, autant pour moi. Ça, ils vont capturer d'autres rabbins. Et ça marche. Et donc, ils vont pas le libérer. Et même après sa mort, où ses ravisseurs, ils demandent de l'argent pour libérer le corps, ils vont attendre 3 ans après la mort que le prix baisse pour le racheter et pour l'enterrer. Donc, c'est pas du tout évident. Et donc, le Rav Avi va nous répondre, est-ce qu'on a le droit ? Il dit, oui, on a le droit. Pourquoi ? Pourquoi on a le droit ? Parce que c'est pas encore sûr qu'ils vont monter les prix. Puisque ça dépend pas que d'eux, ça dépend aussi des douanes des autres pays. Donc, c'est pas sûr. Et nous, si on peut pour l'instant aider, alors il faut le faire. Vous comprenez qu'à ce moment-là, personne ne peut imaginer ce qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, dans les réponses qui sont données, on parle de l'instant. Parce que si on avait pu se projeter, mais les rabbins, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent aller plaider devant le Capitole pour dire, mais il faut laisser passer tous les juifs. Mais personne ne le fait. Parce que personne ne pense que ça pourrait être un problème. 1938, c'est également Leil Abdolar. C'est la nuit de cristal. Et la nuit de cristal, c'est un vrai tournant. Il n'y a pas de questions posées au rabbin, il n'y a pas le temps. Ça dure une nuit. Mais c'est un vrai tournant. Pourquoi c'est un tournant? Parce que le premier qui s'oppose à la nuit de cristal, c'est qui? Ben, c'est Hitler lui-même. Le problème pour Hitler de la nuit de cristal, c'est qu'il n'est pas mécontent du résultat, mais la façon dont ça a été fait. Puisque ça a été fait de manière complètement anarchique. Les gens sont partis, et la SA et la SD, et on est parti, on a brisé des commerces juifs, et on a pogromisé, machin, mais il n'y a pas d'ordre. Or, Hitler, il veut mettre en place un ordre. Et donc, tout ça va nous amener au grand tournant de cette histoire-là, parce que pour l'instant, il y a les lois de Nuremberg. Il y a eu la nuit cristal, mais j'ai envie de te dire, la nuit cristal, c'est un pogrom de plus. Donc, pour les juifs, en Allemagne, c'est un peu compliqué, mais j'ai envie de te dire, on en a vu d'autres. Et pour les juifs du reste du monde, il ne se passe rien. Et arrive le tournant de 1939. Évidemment, le début de la guerre. Et là, j'aimerais voir avec vous deux shoutim, deux shéhélot, qui ont été posés à deux rabbins complètement différents. Un qui est en plein dedans, et un qui ne va pas subir la Shoah. Un qui ne va pas subir la Shoah parce qu'il va avoir du bol, c'est pas qu'il n'y avait pas la Shoah là-bas, mais il va avoir du bol et il est quand même assez éloigné. L'un s'appelle le Rav Yitzhak Nissenbaum, il est rabbin à Varsovie, et l'autre s'appelle le Rav Moshe Chalfon HaKohen à Djerba. Alors j'ai dit, il y a eu la Shoah en Tunisie, il y avait des camps de concentration en Tunisie. Là, je parle pas à ce moment-là, je veux dire, de manière générale, il y a eu la Shoah. C'est-à-dire, c'est pas le Maroc, mais c'est vrai que c'était pas les mêmes proportions. Quoi qu'il en soit, deux questions différentes. Une première question, celle de Rabbi Moshe Chalfon, qui est une question qui montre à quel point on ne se rend pas compte de ce qui va se passer. C'est une question purement halakhique, purement rabbinique, qui lui est posée, parce que Rabbi Moshe Chalfon, il entend le début de la guerre, on est en Tunisie. La guerre, c'est en Pologne. Il n'y a pas encore la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'instant, il y a l'Allemagne qui a envahi la Pologne, et l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Certes, la Tunisie, hein, France, Tunisie, bon, on y est, mais bon, quelle est la question qui est posée? Rabbi Moshe Chalfon, il décrète qu'on doit dire maintenant des Tehilim avant Ishtabach. Entre Ishtabach, ce sera pas avant Ishtabach. Entre Ishtabach et Baruch. Tehilim, Shira Ma'alot, parce que, comme Yamim Noraim, Tfilot. Et quelle est la question qui lui est posée? Parce que lui, il dit, il faut faire ça. Et la question qui lui est posée, c'est, Arav, c'est pas un pain F-sec? T'as vu les religieux? C'est pas un pain F-sec? Il n'y a pas un problème de...
Je comprenais pas.
F-sec, ça veut dire qu'on fait un arrêt entre Ishtabach et les brachot du Shema. On peut pas, on peut pas. Et Rabbi Moshe Chalfon, il va donner une longue réponse pour expliquer que c'est le même statut que le Kaddish. Et que donc, c'est pas un F-sec. Des moutards. Et il va prendre toutes les références qu'on a sur le fait qu'on le fait de toute façon à Yamim Noraim. Donc si on le fait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais vous comprenez qu'on est à un milliard, pas à mille, mais à un milliard de lieux. C'est ça la question qu'on pose à ce moment-là.
En quelle année ça?
En 39, début de la guerre. Au même moment, en Pologne. C'est d'autres préoccupations. La guerre est en Pologne. Le Rav Yitzhak Nissenbaum est parti de Varsovie avant la guerre, en Palestine, en Eretz Israël. Pourquoi? Il fait partie du mouvement Hapoel HaMizrahi. Il est sioniste. Et non seulement il est sioniste, mais il vient avec l'argent de la communauté pour acheter un endroit en Israël où il va pouvoir faire un copier-coller. Et il veut monter toute la communauté en Israël. Entre parenthèses, le projet va finalement marcher. Il sera un projet posthume parce que Le Rav Nissenbaum va mourir dans le ghetto de Varsovie, mais le kibbutz de Be'erot Yitzhak, il existe. Au nom du Rav Yitzhak Nissenbaum. En tout cas, on veut faire venir la communauté en Eretz Israël. On a trouvé l'endroit. C'est bon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait l'Alia. Préparer l'Alia, ça demande un temps. Le cadre, machin, les trucs ne sont pas arrivés. C'est pas le bon conteneur. Quand ils sont là, il faut appeler Ashdod. Et en fait, non, c'est à Haïfa. Et en fait, ce n'est pas parti de Paris. Mais Kitsou, si c'est compliqué aujourd'hui, vous imaginez comment c'était autrement compliqué en 1939. Et donc, le temps qu'ils reviennent en Pologne, à Varsovie, et que tout se mette en place, eh ben, on va prendre du temps. On va prendre du temps, et le Rav Nissenbaum, c'est justement sur ça qu'on va lui poser la question. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'il y a le temps de se préparer? Cette question, elle lui est posée avant la guerre. En mars 1939. En mars 1939, il n'y a pas encore la guerre. La guerre, c'est le 1er septembre. Mais en mars 1939, il y a Pourim. Et cette année-là, à Pourim, le Rav vient de rentrer de son voyage de prospection et les vieux de la communauté lui demandent de bien rappeler aux enfants de ne pas faire trop de bruit pendant la Megillah. Parce que c'est un peu... Et le Rav Nissenbaum ouvre la soirée de Pourim en disant à la communauté, voilà, les amis, rappelez-vous qu'il faut écouter chaque mot, c'est très important à Megillah. Et je demande aux enfants, vous savez, on a l'habitude, de, quand on dit le mot Aman, de faire beaucoup de bruit. Alors je demandais de ne pas faire trop de bruit quand vous entendez le mot Aman, et là tout le monde est très content, les vieux de la communauté sont très contents. Il dit par contre, quand vous entendez le mot avant Aman, à chaque fois qu'il y a un mot avant Aman, là vous vous excitez. Il y a tous les anciens. Il dit, je veux que lorsqu'il y a le mot avant Aman, vous fassiez énormément de bruit, que ça énerve tous vos parents, pour que vos parents vous entendent crier vous, avant qu'ils entendent le nom de Aman et qu'il soit trop tard. On est en mars 1939. Quelques mois plus tard, la Pologne est fermée, c'est la guerre, et au final, toute la communauté et le Rav Nissenbaum seront dans le ghetto de Varsovie et mourront dans le ghetto de Varsovie. La question du temps. Parce que il y en a pour qui c'est une guerre qui se met en place, comme on a vu d'autres guerres. Et puis il y en a qui voient ce qui est en train de se passer. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, il y a aussi quelque chose de fondamentalement différent. C'est la première fois, la Première Guerre mondiale, il faut s'imaginer, c'est la première fois où des Juifs se sont battus contre des Juifs. C'est la première fois où les Juifs ont pris part aux guerres de leur pays. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas convocables dans les différentes armées. Dans les armées napoléoniennes, les Juifs, ils ne sont pas soldats de la Grande Armée. Alors qu'en 1914, ils sont citoyens. Et en France et en Allemagne. Et donc, ils vont être enrôlés. Il y a 100 000 Juifs qui se battent dans l'armée allemande en 1914. Il faut se rendre compte de ça. C'est vrai ? Mais Kitsour, en 1939, donc on a dit, ça y est, c'est le début de la guerre. Un tournant évident. Et ce tournant va prendre un an à se mettre en place, puisqu'en un an, on peut dire que Hitler a gagné la guerre. La première année de la guerre, ça y est, il n'a plus d'ennemis. Fin 1940, il n'a plus d'ennemis. À part l'Angleterre, qui sont les derniers à tenir tête, mais tant qu'ils sont tout seuls, ils ne représentent absolument pas un danger. Il faut comprendre que l'Angleterre, toute seule, elle ne pourra pas conquérir l'Allemagne. L'Allemagne non plus n'arrivera pas à conquérir l'Angleterre. Et il y aura encore des bombardements de Berlin, il y aura des bombardements de Londres, mais en vrai, ça va. En 1940, fin 40, même début 41, les Américains, ils ne sont pas encore en guerre, et les Allemands ont battu toute l'Europe. Mis à part leurs alliés ou les pays neutres. Neutres, vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait des Juifs ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la guerre, ce qui nous intéresse, c'est les Juifs. Et qu'est-ce qu'on fait des Juifs ? Ben, il y a tout d'un coup une nouvelle réalité. Si Hitler voulait se débarrasser de ses Juifs, 500 000 Juifs d'Allemagne, et créer son Judenrein, maintenant il a un problème, puisque avec la victoire allemande en 2 semaines en Pologne, ben, il n'a plus seulement 500 000 Juifs sur les bras, mais il a 3 500 000 Juifs sur les bras, puisque maintenant les 3 millions de juifs de Pologne sont sous sa tutelle. Alors, pas tous, parce que c'est vrai qu'il va y avoir très vite l'accord entre les Russes et lui, et donc toute la partie est de la Pologne va être redonnée à l'URSS, et donc tous les juifs qui sont dans l'est de la Pologne vont vivre sous régime russe, et donc ne seront pas inquiétés. D'accord. Mais c'est quand même 2 300 000 à peu près juifs qui passent sous la coupe allemande. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec tous mes juifs ? Et non seulement j'ai beaucoup de juifs sous les bras, mais là on les voit. Parce que les juifs de Pologne, c'est pas les juifs allemands. Alors c'est vrai, il y en a parmi les juifs de Pologne, on parle de 3 millions de juifs dans la communauté juive de Pologne, et de manière schématique, on sépare la communauté juive en 1 million, 1 million, 1 million. 1 million de juifs sionistes, mais qui se voient donc être juifs. 1 million de juifs bundistes, qui sont membres du Bund, ce mouvement de jeunesse qui est très polonais, anti-sioniste et anti-religieux, mais juif. C'est-à-dire qu'on veut qu'on respecte les droits de l'individu. Tu ne touches pas aux juifs, mais on est polonais. On est polonais de confession israélite, mais pas religieux et pas sioniste. Et 1 million à peu près de juifs religieux. Sauf que les juifs religieux, quand ils les voient, les Allemands, ils arrivent dans les villages, ah bah là oui, ah là oui, là ça correspond aux photos. Parce que même les rabbins en Allemagne, ils ont une petite barbiche, un monocle, c'est des aristocrates allemands. Les rabbis Jacob, il n'y en a pas. Là, on arrive en Pologne, oui. Et donc maintenant, il va falloir trouver une solution. Et la solution est toute trouvée. On va d'abord les rassembler. Et c'est là qu'on va mettre en place, fin 1940, début 1941, les ghettos. Eh oui. Et dans le ghetto, c'est là qu'on a dit qu'il va y avoir énormément de questions qui vont être posées aux rabbins. Parce que c'est une nouvelle réalité de la vie. On ne sait pas comment gérer la chose. Et surtout, on ne sait pas se projeter. Et donc, je vous ai amené, en spoiler tout à l'heure, la question de est-ce qu'on met une mezouza ? En 41, tout le monde dira oui. Parce que, bah, en fait, ta nouvelle maison, c'est ta nouvelle maison. Bah, voilà, c'est... Dira de Keva. À partir de fin 42, où tout le monde voit que les déportations, elles commencent, tout le monde sait qu'il n'y a pas de kviout. Donc, on ne doit pas mettre de mezouza dans le ghetto. Vous comprenez que la réponse à la RIC, elle montre aussi la prise de conscience historique. Maintenant, il y a plein de questions. Je vous en ai pas tous, je vous ai pas tous ramené parce qu'on va pas. Il y a énormément de questions. Le Rav Ephraim Oshri, qui a écrit le livre Mima Hamakim, il est le rabbin, un des rabbins du ghetto de Kovno. Et il va survivre, il va écrire énormément de choses. Il mourra en 2003. Et le Rav Oshri, lui, va relater énormément de questions qui lui ont été posées ou qui ont été posées à d'autres.
Ah, oui. C'est-à-dire que dans la tête d'Hitler, finalement, c'était pas un idéal de tuer les juifs. C'était quoi, une nécessité, c'était...
Alors, ça dépend à qui tu demandes. Non, vraiment, ça dépend à qui tu demandes, tant au niveau des historiens qu'au niveau des nazis eux-mêmes. C'est-à-dire que chez les nazis, s'affrontent deux idéologies. Ce qu'on appelle les intentionnalistes, et ce qu'on appelle les fonctionnalistes. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que les juifs, non, mais il y en a qui disent, écoute, autant profiter d'eux, et puis s'ils meurent, ils meurent, ils mourront de toute façon, ou alors non, on va tous les tuer. Et donc si tu veux, pour te donner un schéma de ce dilemme, c'est le camp de Auschwitz face au camp de Treblinka. Treblinka, c'est un camp de la mort qui est mis en place pour que tout le monde meure. Le camp de Auschwitz, c'est un camp de travail. Si tu veux passer la sélection parce que tu as assez de force, tu vas travailler. Si tu meurs, tu meurs, mais si tu travailles, tu travailles. Parce que soit je peux m'enrichir sur le dos des juifs, soit il faut tous les massacrer tout de suite. Et en vérité, dans Mein Kampf, il n'y a pas marqué textuellement, si tu arrives à lire entre les lignes, tu lis, mais ça c'est parce que nous on lit avec notre prisme de l'après. Mais il n'y a pas marqué noir sur blanc qu'il veut tuer tous les juifs. Il dit clairement qu'il veut dégager les juifs du royaume, du Reich de Milan, mais on ne te dit pas qu'il veut les tuer clairement. Y a un livre qui fait polémique, dans lequel c'est plus explicite. C'est un livre qui s'appelle Hitler m'a dit, de Rauchtig, un de ses généraux, qui est parti en 1938, comprenant que son patron il partait dans une direction compliquée. Et donc il part aux États-Unis et il raconte les discussions qu'il a eues avec le Führer. Et dans une de ces discussions, il lui demande pourquoi les juifs. Et il raconte que Hitler lui a répondu parce que les juifs, c'est la morale du monde et il faut se débarrasser de la morale. Est-ce que là, ça veut dire clairement qu'il faut tous les tuer? C'est pas clair. Jusqu'à la conférence de Wannsee, on va y arriver dans pas longtemps, c'est pas clair. Donc non, pour l'instant, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ça m'emmène à une autre question qui a été posée dans le ghetto de Varsovie, cette fois. Parce que là, je vous ai dit, le Rav Oshri, on lui pose le rabbin de Kovno. Et là-bas, on va lui poser plusieurs questions. Par exemple, ici, je vous en ai ramené une. Dans le ghetto de Kovno, on va lui demander, est-ce que on a le droit, lorsque on peut réussir à avoir des listes, lorsque les convois vont commencer, est-ce que j'ai le droit de choisir celui qui va partir dans le convoi et qui ne reviendra pas à la place d'un autre? On me demande à moi de faire une liste. Est-ce que j'ai le droit, moi, de choisir? C'est-à-dire, en fait, d'envoyer un homme à la mort et l'autre à la vie. On ne se rend pas compte de ce genre de questions. Et il dit, mais comment tu veux que je te réponde? Même à l'époque de Yerushalayim au Bet HaMikdash, il fallait un Sanhedrin de Sribu Shlosha pour dire la Dundin et Nefashot. Moi, je suis tout seul. Comment tu veux Dundin et Nefashot?
Ça, c'était posé en quelle année?
Dès 42.
Parce qu'ils n'étaient pas très sûrs.
Non, non, on n'est pas sûrs.
Qu'est-ce qui se passait?
C'est pour ça que je dis, quand on part déjà dans les convois.
Oui.
C'est-à-dire, une fois qu'on sait déjà que les gens, ils s'en vont.
Ils ne savaient pas tous encore.
Non seulement ils ne savaient pas tous, et même ceux qui savaient, il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas savoir.
Ouais.
D'accord. Mais encore une fois, cette question-là, mais même si on te dit, alors tu sais quoi, on va la poser à l'envers. Disons qu'on croit à ce qu'on nous dit qu'on va à l'Est pour aller travailler. Alors peut-être que c'est mieux de rester dans le ghetto. Et donc la question, elle est inversée. C'est-à-dire, c'est l'eau pas shoot.
Ouais.
Dans tous les cas, lui répond que non, on ne peut pas. On ne peut pas décider. Alors que, lorsqu'on va arriver à un moment où il y a une certitude de la mort, ben, le Rav Nissenbaum, avant de mourir, le Rav Zemba, qui va survivre jusqu'à la révolte du ghetto de Varsovie, lui, il va dire qu'il faut envoyer les plus faibles. Parce que, de toute façon, ils ne survivront pas. Laisser une chance aux autres de survivre. En 43, juste avant la révolte du ghetto de Varsovie. C'est terrible. Est-ce qu'on se rend compte de quoi on parle? Maintenant, les amis, cette question-là, en 1941, quand on commence à rentrer dans la réalité du ghetto, on ne sait pas, je le redis, ce qui va se passer. On ne sait pas que dans le ghetto, il va y avoir des quotas de rationnement. On ne sait pas que dans le ghetto, il va y avoir les maladies, il va y avoir la surpopulation, il va y avoir les problèmes de tout ce que vous voulez. Et on ne sait surtout pas qu'en fait, on est là juste pour être stagné et mis en masse le temps que quoi? Tous les juifs se disent, encore une fois, toujours dans notre même fil rouge, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de plus? D'autant plus que les juifs pensent qu'ils sont la main-d'œuvre des Allemands. On voit une réplique comme ça dans le film de Liste de Schindler. Il dit, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas nous tuer. On est leur main-d'œuvre, ils ne vont pas tuer leur main-d'œuvre. C'est complètement idiot. Et c'est ce qui nous emmène au tournant de 1942. Du 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee. Conférence de Wannsee, c'est la prise de décision officielle par le Reich que ça y est, on va tuer les Juifs. Comprenez-moi bien, la Shoah par balle a déjà commencé à partir de l'opération Barbarossa. C'est-à-dire qu'à partir de juin 1941, lorsque les Allemands n'ont plus d'ennemis à l'ouest, ils décident de rompre le pacte de non-agression germano-soviétique avec Staline et ils rentrent à l'Est. Et ils créent les quatre unités de Einsatzgruppen qui sont là pour suivre l'avancée de l'armée allemande vers l'Est. Et là où il y a du juif, on les massacre et c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Mais la Shoah par balle, bien qu'elle devienne systématique, elle n'est pas encore officielle. La conférence de Wannsee, c'est une décision claire, sans appel. On va construire trois camps, les camps de l'action Reinhardt, qui ont un seul but, tuer les Juifs. Et c'est les camps de Belzec au sud de la Pologne, sud-ouest, au sud-est de la Pologne. C'est les camps de Sobibor au centre et de Treblinka au nord. L'objectif est simple, on va tuer tout le monde. Il y a un homme qui habite dans le ghetto de Varsovie qui s'appelle le Rav Kalminus Kalman de Piersetzna. Admour mi Piersetzna. Admour mi Piersetzna, il est connu à Varsovie, dans tout le monde juif. Il a écrit un livre avant la guerre qui s'appelle Chovat HaTalmidim, qui est le livre de moussard de base de toutes les yeshivot de cette époque-là. Il est très très connu. Il a un frère, mais c'est un peu le raté de la famille, parce que Pasnicht, il a décidé de partir en Israël. Et donc, bien avant, on est avant la Shoah, rien du tout. Et le frère qui est le grand frère, qui aurait dû être lui le Admour de Persetzna, il est amoureux de la terre d'Israël, il part en Israël et il devient à Admour Achalutz. Vous pouvez regarder sur internet, à Admour Achalutz, Rav Yoshua Ishayahu Shapira, et c'est le Admour à cheval. C'est assez stupéfiant, mais le mec habillé en Admour à cheval. Évidemment, à la ceinture, le colt. Oui, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Quoi qu'il en soit, Rabbeinu Kalmanus Kalman de Persetzna, il est donc dans le ghetto et il écrit un livre. Un livre fantastique qui s'appelle Esh Kodesh. Et en fait, c'est un recueil. Tous les Shabbats, il fait son Dvar Torah sur la paracha. Et après Shabbat, officiellement, il l'écrit. Officieusement, après avoir fait la dracha vendredi soir, il vient dans le club secret clandestin de Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est un club secret clandestin qui... On vient là, il y a une semaine, à Varsovie, de mettre une stèle, un monument, pour rappeler la mémoire de Onek Shabbat. Et c'était des gens qui se réunissaient en secret le vendredi soir pour écrire tout ce qui se passait dans le ghetto. Et 90% des choses qu'on sait sur la vie du ghetto, c'est grâce à ce qu'ils ont écrit. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont écrit, quand ils ont, les derniers survivants, juste avant la révolte du ghetto, quand ils ont compris que tout allait être détruit, machin, ils ont mis tous les écrits dans des grands barriques de lait, vous savez, en métal comme il y avait à l'époque, et ils les ont enterrés. Et on les a retrouvés, ces barriques de lait, après la guerre. Donc on a tous les écrits, pratiquement tous les écrits, parce qu'il manque une barrique qu'on n'a pas retrouvée, mais pratiquement tous les écrits de Onek Shabbat, et donc le Sefer Esh Kodesh qui a été retrouvé dedans, dans lequel il marque la demande de Persetzna, il marque que si jamais quelqu'un trouve mon livre, qu'il l'envoie à mon frère en Palestine. C'est comme ça que nous on l'a aujourd'hui, Sefer Esh Kodesh. Et donc c'est un commentaire de la paracha, c'est pas un Shelot ou Tshuvot ou Bechol Zot. Le Admour, quand est-ce qu'il fait le tiche?
Non, pourquoi ils écrivent le vendredi soir?
Ah, pourquoi on se réunit le vendredi soir? Parce que les nazis, ils savent que le vendredi soir, les juifs, ils se réunissent. Donc ça passe. Mais évidemment, pas pour écrire, mais ça passe. Et donc finalement, bah, dans ce Esh Kodesh, il y a une des questions qui se pose lui-même et il répond. Et je ne comprends pas, il y a plein de gens qui viennent me voir et ils ont des questions de Emouna. À cause de ce qui nous arrive. Et il répond. Et il dit, je comprends pas. Pourquoi les gens ont des questions d'Emouna? Ça va? Qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive nous est déjà arrivé dans l'histoire. Et il fait la liste de toutes les choses terribles qui se passent dans le ghetto. Il dit, voilà, ça, bah ça c'est ce qui s'est passé d'après le Midrash, dans un truc, machin. Ça c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger, les gens ils meurent de faim à tel point qu'on est prêt à peut-être à se manger les uns les autres. Ah, ça c'est ce que nous dit la Megillat Echa sur le Matzor de Jérusalem, qu'il n'y avait pas à manger. Ben. Donc il dit, je comprends pas pourquoi les gens se posent la question. Ça va, tout ce qui nous arrive, c'est dur, machin, mais ça nous est déjà arrivé. Et dans le livre, il y a une astérique qui nous ramène un commentaire manuscrit qu'il écrit... Après, mais c'est après, il ne va pas survivre. Mais qu'il écrit à Hanouka 1942, donc fin 42. Et il écrit tout ce que j'ai écrit l'année dernière, parce qu'il y a deux drushim de Hanouka, celui de fin 41 et celui de fin 42. Tout ce que j'ai écrit l'année dernière, c'était vrai jusqu'à l'été 1942. Mais depuis l'été 1942, je ne sais pas quoi dire. On n'a jamais vécu ça. Et je peux comprendre que les gens, ils aient perdu leur humour. C'est quoi l'été 42? C'est la mise en fonction de Treblinka. C'est le début des camps de la mort. Il dit ça, je ne le dis pas. Et vous commencez à comprendre qu'à ce moment-là, oui, on commence à comprendre. Et c'est un nouveau tournant. C'est un nouveau tournant qui nous amène dans la réalité des camps. Je ne vais pas vous faire toutes les questions qui ont été posées à Auschwitz, à Majdanek, dans tous les différents camps. Il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions. Je parle même pas des questions simples. Est-ce qu'on a le droit de manger quelque chose qui n'est pas cachère? C'est pas choute. Mais c'est des questions de vie et de mort. C'est des questions tellement, tellement fortes. Lorsqu'à Auschwitz, par exemple, on va demander... Il y a à un moment donné, à Rosh Hashanah, 1943, un des commandants du camp, il va mettre une espèce de pancarte comme ça, une espèce de, tu sais, comme tu fais la queue pour aller à Disney, pour aller dans le Space Mountain, il faut passer dans une certaine taille, mais pareil, il dit, ceux qui passent pas la taille, chambre à gaz. Et donc tous les enfants, ils vont devoir partir. Mais les enfants, ils ont déjà pas passé la sélection. Non, ceux qui ont passé la sélection, mais j'ai décidé que là, voilà. Et on a fait passer tout le monde, et donc on arrive à un nombre de 263 enfants, jeunes. Et maintenant, la question qui se repose, vous vous rappelez de notre question de savoir est-ce que j'ai le droit d'envoyer cela et pas cela ? Il y a un homme qui vient voir un des rabbins de Auschwitz. Il lui dit, est-ce que j'ai le droit d'aller sauver mon fils ? Maintenant, je sais comment ça marche, j'ai parlé au capot. Le capot, il s'en fout. Il y a 263 qui vont partir. Est-ce que j'ai le droit ? Je trouve un autre enfant. Et pas mon fils.
C'est marrant que tu poses encore ces questions.
C'est...
Qui, dans un instinct de survie comme ça, continue à poser des questions ? Est-ce qu'il y a encore une logique humaine où on pose la question ? Moi, je ne pose même pas la question, je le change.
Tu veux que je te dise la vérité ? C'est parce que toi et moi, on n'a pas été éduqués à poser des questions au rabbin. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que, on se dit, mais attends, moi, je réfléchis tout seul, je suis un grand garçon, mais il y a des gens... Et bon, malheureusement, on voit ça aujourd'hui poussé à outrance, que pour tout et n'importe quoi, je vais demander au rabbin. Hein ? Oui, oui. Mais aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a des gens qui demandent au rabbin pour tout, pour changer la couleur des draps, pour changer les trucs. Donc ils demandent. Ils demandent. Attends, j'ai le nom du rav. Je veux pas dire de bêtises. Iné. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est là. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Le Rav Meiselis. Le Rav Tzvi Hirsch Meiselis. Donc, c'est à lui qu'on demande. Et donc, il doit répondre. Qu'est-ce que je vais répondre ? Et il répond. Il lui dit, donne-moi quelques instants. Parce que là aussi, j'ai pas 23 autres rabbins avec moi. Et à la fin, il répond, il dit... Regarde, si tu peux sauver ton gosse et que c'est seulement après que le capot il va choisir un autre gosse, alors c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il est juif le capot et que peut-être qu'il y aura de la Midat HaRachamim et que finalement il ne va pas choisir un autre. Mais si c'est d'abord il choisit un autre et ensuite il libère le tien, alors assour. Et il dit, moi, je fais ce que le Ravi m'a dit. Et il va voir le capot. Le capot, il dit, alors, je vais prendre un autre. Alors, il dit, non. On ne se rend pas compte. Mais à ce moment-là, pourquoi les gens, ils sont comme ça ? Parce qu'ils savent que, de toute façon, ça sera lui donner quoi ? Une semaine de plus ? Deux semaines de plus ? Donc, qui je suis, moi, pour lui prendre la vie de l'autre ? C'est des questions qui sont déjà à un niveau de résilience. Et ça nous amène à 1943. 1943, évidemment, elle est connue, cette date, pour être le 19 avril, la révolte du ghetto de Varsovie. C'est un autre tournant. Mais en fait, la révolte du ghetto de Varsovie, pourquoi elle est tellement importante ? Pas parce qu'on a tenu tête à l'armée allemande pendant 3 semaines, plus que l'armée française. Non, c'est vrai. C'est pas seulement pour ça que les mecs qui n'ont pas mangé depuis 2 ans, ils ont tenu la tête à l'armée allemande. C'est... Bon, un, ça peut pas faire de mal. C'est dans un climat aujourd'hui de dissension au sein du peuple juif de se rappeler que même dans la révolte du ghetto de Varsovie, tout le monde s'est battu ensemble. Seulement, quand je dis ça, c'est pas vrai. Voilà, parce que même quand je dis ça, c'est pas vrai. Même à cette époque-là, on a réussi à ne pas se mettre ensemble. C'est-à-dire, ça, c'est un grand classique du peuple juif. Et ce n'est que à la fin de la révolte que Bedeled Brera, Pavel Frankel, il a été accepté parmi les décisionnaires de ce qui était en train de se passer. Parce que c'était les plus entraînés, c'était les meilleurs et c'était les derniers qui avaient des armes. Mais il n'empêche que la révolte du ghetto de Varsovie va servir de point de départ à toutes les autres révoltes qu'il va y avoir. Les révoltes dans l'univers de la Shoah ne sont pas du tout là pour battre les Allemands. Mais elles sont là pour montrer que non, on n'a pas atteint ce niveau de résilience et non, on n'a pas complètement baissé les bras. Que ce soit la révolte du ghetto de Varsovie, que ce soit la révolte qu'il y aura à Sobibor qui va réussir, là pour le coup, la révolte des rescapés de Sobibor, et finalement 300 des 600 juifs qui étaient à Sobibor vont réussir à s'enfuir. Malheureusement, seuls 50 vont survivre à la guerre, parce qu'il y en a plein qui vont être récupérés, voire tués par des Polonais. Il y a un des responsables de la révolte, Léon Friedlander, qui est un des instigateurs de la révolte, qui va survivre, et qui survit à la guerre, qui revient habiter à Lublin, à Lublin, là où il habitait avant la guerre, et il monte un commerce dans lequel il embauche plein de rescapés de Sobibor avec lui, et un an après la guerre, il est tué par des Polonais de Lublin parce qu'il est juif, après la guerre. Mais en tout cas, toutes ces révoltes-là, il y a eu une révolte aussi à Treblinka, il y a eu une révolte aussi à Auschwitz, toutes ces révoltes-là, elles montrent que non, on n'est pas prêt à la résilience. La question qui est posée au Rav Menachem Zemba qui accompagne les jeunes à la révolte, la question est de savoir, et là pour le coup, ce n'est pas les jeunes qui posent la question au Rav, c'est le Rav qui pose la question aux jeunes. Il dit, est-ce que vous pensez que ce soir, vous aurez du temps entre les combats? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, parce que alors, au cas où, je vais préparer des petites matzot pour tout le monde. Parce que c'est le premier soir de Pessah. Le 19 avril 1943, c'est la Seder. La révolte du ghetto de Varsovie, la Seder. Donc je vais vous faire des matzot. Bon, il n'en a évidemment pas fait pour tout le monde. Et elles n'étaient évidemment pas cachères, le Pessah. Mais, pas de zérachou. Et puis finalement, ça nous emmène tout ça à une autre réalité. La réalité de est-ce que je peux négocier avec les nazis. 1944, le train de Kassner. Je peux négocier avec les nazis? C'est compliqué, hein? Non, pas shoot. 1684 juifs qui vont être sortis de Hongrie par le train de Kassner. Mais ceux qu'il a sortis, il n'a pas sorti les autres. Et puis il a payé pour eux. Et puis il y avait un peu beaucoup de sa famille et de ceux qui pouvaient se le payer. Mais d'un autre côté, il y en a quand même qui ont survécu grâce à lui. Et finalement, ça nous emmène à 1945. 1945, Chozrim Lachaim. Chozrim Lachaim, d'abord dans les camps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un moment de transition entre la fin de la Shoah et la libération. On parle du 27 janvier comme étant le jour de la libération de Auschwitz. Ma grand-mère, elle était déjà partie de Auschwitz avant le 27 janvier. C'est-à-dire que lorsque les soviétiques ils arrivent à Auschwitz, il n'y a plus personne vraiment à sauver, puisque les marches de la mort ont déjà commencé. Donc ma grand-mère, elle est déjà rentrée jusqu'en Allemagne, dans d'autres camps. Et parmi ces camps, il va y avoir le camp de Bergen-Belsen, bon, qui a fonctionné déjà avant et tout, mais il y a une tfila. Une tfila qui n'est pas une question-réponse, parce qu'ils ont posé la question à eux-mêmes et ils se sont donné la réponse tout de suite. On est à Pessah. On revient à la vie. N'oubliez pas que la libération finit officiellement, l'armistice, c'est le 8 mai, et tout ça, ta ta ta. Donc Pessah, c'est juste avant. Et il y a un petit peu à manger. Mais ce n'est pas cachère de Pessah. Alors la question de savoir au niveau halakhique, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, c'est pas une question, bien sûr qu'on a le droit. Mais il y a une tfila qui va être écrite à Bergen-Belsen. Et qui n'attend même pas 1945, puisqu'elle est déjà écrite en 1944. Elle va être reprise en 1945. Et elle dit comme ça. Lifne achilat chametz bepesach, yomar bechavanat alev. Avant de manger du chametz à Pessah, on dira avec tout notre kavana, toutes nos intentions. Avinu shebashamayim, papa. Galui veyadua lefanecha. Tu sais bien, sheretzonenu laasot retzoncha. que notre volonté, c'est de faire ta volonté. Velechol matzah veleishamer me'achilat chametz me'isur chametz. Que nous, on veut manger de la matzah et qu'on veut se garder de l'interdit de manger du chametz. Ach alzot, de'ava libenu she'ashi abud me'akev otan. Mais malheureusement, dû au fait de cet exil qui nous empêche, va'nachnu nimtzaim besakanat nefashot, et on est en danger de mort. Inenu muchanin umzumanim. Inenu muchan umzuman. On n'arrête pas de chanter sur Atahomer. Anachnu muchanim umzumanim. On est prêt lekayem mitzvatra, de réaliser ta mitzvah qui est marquée dans la Torah. Vachai baem. Tu dois vivre par cette Torah. Velo sheyamut baem. Et pas en mourir. Et donc tfilotenu lecha. Shetechayenu. On prie pour que tu nous donnes la vie. Techaskenu, que tu nous renforces, et tavienu, le moadim ve l'ergalim acherim, que tu nous amènes à d'autres fêtes, shenuchal, l'echol matza, qu'on puisse manger de la matza, ve l'ekayem et kol mitzvatra ve levav shalem, qu'on puisse faire toutes tes mitzvot avec tout notre cœur. Amen. Bracha du retour à la vie. Et toutes les questions de halakha qui vont être posées aux rabbins à partir de 1945 sont toutes tournées sur comment on revient à la vie. Et parmi ces questions, c'est dans les camps de transit où tout le monde veut se marier. Et les Américains ne comprennent pas. Et la question de savoir est-ce qu'on fait des brit milot sans moël. Il y a un médecin. Il fait la brit mila, on ne fait pas la brit mila. Et les questions sont même plus des questions de halakha tellement. Ce sont des questions de comment on redevient juif. Et les rabbins ne donnent même plus des réponses de halakha. Mais c'est des réponses de... Voilà. Voilà. Parce que, halakhiquement parlant, non, attends. Là, c'est sakana, c'est pas le moment. Attends qu'il se renforce, après, il y aura un moël, machin. Aval, non, il faut rentrer le brito chez l'Abraham Avinu maintenant. Peut-être parce qu'on a peur que ce sera peut-être trop tard. Comme on avait posé cette question-là au Rav Oshri dans le ghetto de Kovno. Qu'il y a un bébé qui est né. Alors lui, on lui fait la brit mila? Non, sakana. Mais quand il y a des juifs qui sont ramenés dans le ghetto, qui ont complètement lâché la Torah, mais qui n'a pas été circoncis, il a 27 ans. Et il comprend que son assimilation ne va pas le sauver. Il veut faire partie intégrante du peuple juif maintenant. Et il demande qu'on lui fasse la brit mila. Il n'y a pas de moël dans le ghetto. Est-ce qu'on le brit mil ou est-ce qu'on le brit mil pas? Toutes ces questions, elles nous aident à prendre conscience que ces 10 points qu'on a évoqués, eh bien en fait, sont vécus à ce moment-là, pas du haut, et en disant, on a un œil qui regarde toute l'histoire avec un grand H, mais au contraire, ce sont des rabbins qui ont été présents dans la petite histoire de chacun et de chacune, et qui ont en fait permis à ceux qui ont voulu l'entendre de continuer à transmettre cette petite histoire qui devient la grande. Mais en vérité, pour nous qui regardons les choses avec 80 ans d'écart, eh bien, toutes ces petites questions de halakha, toutes ces 10 points qu'on a évoqués, on aurait pu en évoquer d'autres évidemment, qui sont pour moi les 10 points qui nous permettent de comprendre comment les choses ont évolué, eh bien nous permettent de nous projeter sur comment est-ce que nous, on doit prendre ces 10 points, ces 10 questions, ces 10 styles de questions et comprendre à quel point nos questions aujourd'hui, elles doivent être tournées non pas sur comment est-ce qu'on survit, mais comment est-ce qu'on vit. Toutes ces questions qui ont été posées, qu'on a évoquées ce soir, sont des questions de la survie, tant de l'esprit, du corps, du peuple juif. Les questions aujourd'hui qu'on doit poser ne sont plus des questions de survie, mais sont les questions de comment en 10 points on reconstruit et on se met à vivre véritablement notre identité d'Israël. Que leur mémoire, évidemment, soit pour nous une source de bénédiction et que nous puissions, dans ces temps un petit peu troublés et compliqués, eh bien, retrouver cette vérité simple que nous sommes revenus en Israël pour nous reconstruire une identité. Et c'est normal que ça prenne du temps, et c'est normal que ce soit pas facile, et c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, Et je rappelle à tout le monde ici, et je termine par là, que nous sommes 75 ans après la création de l'État d'Israël, 75 ans après la sortie d'Égypte. Nous étions à l'époque des Shoftim avec l'histoire de Pileg Eshbagiva qui se faisait couper en 12 morceaux pour être envoyé aux 12 tribus pour finalement venir à massacrer pratiquement en entier une des 12 tribus d'Israël. Je pense qu'on n'est pas là-bas et que finalement ça va, des Yebeseder, et même si on a des hauts et des bas, ça va. Et le temps est à la construction de notre identité. Donc, amen, qu'on y arrive très rapidement. Hazak, Koubarouf, je rappelle qu'on étudie tous les lundis soirs.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Et que vous pouvez revenir. Et d'ailleurs, vous pouvez même, si vous arrivez en force, vous pouvez même prendre part active dans le choix du sujet du cours.
Et ainsi de suite. C'est au rôle.
Oui, oui, c'est au rôle. Il faut laisser croire aux gens. Top. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas.